rejouent ce chant ensemble, et puis avec leur violon, violoncelle, les quatre, les cinq, ils vont jouer cet air. Et ça fait penser à quelqu'un qu'on a bien connu, surtout Chantal, l'aumônier de l'hôpital d'Azmou, qui s'appelait l'abbé de Chartres, que j'ai rencontré deux fois, avec qui j'ai mangé plusieurs fois. Et c'était un homme vraiment d'une étonnante jeunesse. Je crois qu'il est décédé à 93 ans, 94. Et il avait un grand sens de l'humour. Et il m'a accueilli, il savait qui j'étais, quelle était ma spécificité dans le christianisme. Et c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et sur son faire-part de décès, il était marqué, je paraphrase, mais je suis attendu de l'autre côté. Une espèce de certitude dans sa foi. Et quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui a beaucoup apporté à l'hôpital. Et je pensais à lui lorsqu'on chantait ce chant. La semaine dernière, nous avons parlé du repas de la Pâque, du Seder. Quand vous êtes en Israël et qu'on vous salue, vous répondez Beseder, tout va bien, parce que le Seder c'est de l'ordre, tout va bien dans ma vie est ordonnée, Beseder. On a parlé de cela et ce sera important de recaler un peu les choses, qu'il y avait certains d'entre vous qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et donc on a surtout parlé de l'agneau pascal. Et le texte du jour, curieusement aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus et qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et puis, on s'est remémoré ce qui se passe qui s'est passé il y a 3500 ans, au moment où les Juifs quittent la Mitzrayim, qui est l'Égypte. Le Seigneur va leur demander de faire quelque chose de bien particulier, de célébrer ce repas de la Pâque. Et puis, on avait un peu raconté comment, à un moment donné, il tue l'agneau, il égorge, il récupère le sang dans une bassine, et puis l'idée, c'était de, comme au nom de Dieu, l'ange exterminateur va arriver dans la 10e plaie d'Égypte, va tuer les premiers-nés de chaque maison, y compris les maisons des Israélites s'ils se conformaient pas à la volonté de Dieu. Et puis c'est seulement les gens qui remis le sang sur le linteau et sur les deux côtés des portes, qu'on appelle les mezouzas aussi, ça s'appelle comme ça, c'est le petit insigne que les Juifs mettent à l'entrée de la maison, vous savez, où ils mettent la main et il y a des paroles de la Bible qui sont inscrites dedans. Mais mezouzas, ça veut dire aussi les deux côtés de la maison. Donc sur le linteau et sur les deux côtés de la porte, et il fallait qu'ils mettent du sang. Et la semaine dernière, j'avais amené un bocal de pas de sang, mais de quelque chose qui imitait le sang. Et puis on avait fait ce schéma. Vous voyez ici le linteau de la porte, les deux côtés. Et puis j'avais pris mon pinceau, qui était une branche d'hysope, mais j'avais pas de branche d'hysope. Et puis j'ai d'abord fait un coup sur le linteau, et puis le sang coulait sur la porte. Et puis après, j'ai pris ma branche d'hysope et puis j'ai mis du sang sur les côtés. Et vous voyez, quelque part, en faisant ça, j'ai fait un trait au milieu. Curieusement, il y a une croix qui apparaît. Je ne sais pas si vous la voyez. Et donc, c'était quelque chose d'important. Et puis, j'avais fait un trait au milieu qui était la porte, qui symbolisait aussi la porte et qui est aussi la porte de notre cœur, avec laquelle il y a seulement une poignée qui est à l'intérieur, mais qui n'est pas à l'extérieur. Le Christ ne va jamais s'imposer à nous. Il ne va jamais ouvrir la porte et dire « voilà, je viens ». Il va attendre qu'on lui ouvre la porte et qu'on puisse éventuellement aller manger avec lui. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de l'Apocalypse, que si on lui ouvre la porte, il vient et il s'installe avec nous, il mange avec nous. Donc c'est quelque chose d'important. Et quand vous avez des invités qui viennent chez vous, le meilleur moment, c'est quand on se met à table, quand on partage ensemble le repas. Et c'est vraiment un partage à la fois de paroles et un partage aussi autour du repas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des mondes. En Samarie, encore actuellement, il y a très très peu de Samaritains encore, mais il y en a encore en Israël. Et lorsqu'ils célèbrent la Pâque, c'est quelque chose d'hyper impressionnant, parce qu'ils vont élever des moutons ensanglantés sur des pics, comme sur des croix. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant. Et vous avez comme ça cet agneau qui écartelé tel un homme. Il y a des images que vous pouvez trouver sur Internet que je n'ai pas pensé vous montrer aujourd'hui, mais c'est vraiment impressionnant. Et le sang coule sur ces agneaux qui vont être après cuits et qui vont servir au repas de Pascal. Mais quelque part, quand on pense à Jésus, et quand on pense à ce symbole, ce sang qui nous sauve, et Jésus aussi qui a été mis sur la croix comme cet agneau, c'était l'agneau pascal, hein, notre Pâques a été immolé, nous dit Paul aussi aux Corinthiens. Donc c'est quelque chose d'impressionnant parce que Jésus a été aussi cet agneau pascal qui a été immolé, qui était couvert de sang. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très très sanglant. Et lorsque on partage ce repas, surtout le pain, on partage le pain, et en grec, quand il parle du corps du Christ, c'est sarx. Sarx en grec, ça veut dire, quand vous prenez un steak, vous achetez un steak à la boucherie, vous demandez cette viande ensanglantée, c'est sarx. C'est vraiment cette chair dont nous sommes faits, qui a été sacrifiée, qui a été rompue, qui a été brisée pour nous, et ce sang qui a coulé et qui nous sauve. Alors Jésus a dit « Je fais toutes choses nouvelles » quand il est venu parmi nous. Et la fête de Pâques, c'est la première des fêtes. C'est la fête qui nous permet de partir de l'année dernière pour l'année nouvelle. C'est un passage. C'est le passage de l'Égypte à la terre promise. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. C'est le passage aussi de la mort à la vie, parce que vous savez que ces gens, on en avait parlé la semaine dernière, vous imaginez le premier-né d'une famille israélienne, il avait intérêt à ce que les choses, le père, fasse les choses correctement, sinon il risquait la mort. Et c'est aussi le passage de l'ange exterminateur, parce que le Pessah, en hébreu, ça veut dire passer au-dessus. Il y a le repas qui est le Seder, le repas de Pâques qui est Seder, qui est l'ordre. Et puis, il y a le passage qui est aussi ce passage de l'ange exterminateur qui allait passer pour toute l'Égypte. Et seulement les foyers qui étaient finalement protégés par ce sang de l'agneau pouvaient aller passer de la mort à la vie. En tout cas, leur premier-né allait survivre. Donc voilà un petit peu de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Et puis j'ai discuté avec certaines d'entre vous, avec Domiti, avec Aurore, avec Rebecca, qui me disaient « Papa, t'as été très vite, parce qu'on n'a pas tout compris. » Et donc je voulais un petit peu revenir sur ces choses-là. C'est important et c'était beaucoup de choses en une heure, en tout cas. Celui qui a eu cette idée ce dessin, en fait, c'est un juif dont les parents américains, dont le grand-père et l'arrière-grand-père étaient rabbins, donc quelqu'un qui a grandi vraiment dans un judaïsme très 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 strict. Et il a toujours été un petit peu interloqué, parce que durant Pâques, il y a des choses bizarres qui se passent, il y a des habitudes qui sont prises lors de ce repas. Et je vous avais un peu parlé de la ficomène, sur laquelle je vais un petit peu revenir, parce que les gens ne savent pas tous ce que c'est. Il y a, par exemple, il laisse la porte ouverte, et celui dit, mais pourquoi il laisse la porte ouverte? Après, il y a une assiette qui est mise pour le prophète Élie. Pourquoi? Enfin, et ce juif se posait la question. Et c'est vrai que lorsqu'on vit notre christianisme, Jésus, c'est un peu la clé. C'est la clé. Et pour moi, c'est dans l'histoire judéo-chrétienne, je compare souvent ça, je l'ai dit à certains d'entre vous, un petit peu une carte de France. Et puis vous avez la région parisienne qui est Jésus. Donc le Messie d'Israël, notre Messie, le salut vient des Juifs, celui qui nous apporte le salut dans le monde, celui qui fait qu'on est là. Donc on comprend Jésus, et dans le Nouveau Testament qui nous est donné, on parle de lui, mais d'une manière universelle, sans forcément comprendre l'écrin dans lequel il est né. Et puis, au fur et à mesure de mes études sur le judaïsme, j'ai des départements, Lot et Garonne, qui s'éclairent, qui devient orange, alors qu'il était gris avant, le nord de la France, qui est vert, et finalement, j'inscris mon christianisme dans ce panel de couleurs extraordinaires que nous enseigne l'Ancien Testament. Saint Augustin a dit aussi que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché, et que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Et c'est vrai qu'à travers Jésus, il y a plein de choses qui s'éclairent. Et pour certains juifs qui découvrent, à travers ce repas de Pâques,
les mystères de ce repas, eh bien, quand vous mettez Jésus à cet endroit-là, il éclaire tout. Et nous allions parler de la ficomène. La ficomène, vous savez que quand on commence le repas, j'avais pris une matza que Macha avait cuite, qui est ronde. Et puis, vous savez qu'au début du repas, et ça se fait encore dans le judaïsme actuel, c'est ça qui est vraiment surprenant, on cassait un morceau de l'afikomen, qui est un terme grec. Alors, dans la tradition, donc on mangeait ce petit morceau-là, et celui-là, on le cachait dans un drap blanc, et on donnait, le papa donnait, allait le cacher quelque part, et enfin, ensuite, c'est le plus petit de la famille qui allait essayer de trouver l'afikomen pour le ressortir à la fin du repas. Chez les juifs traditionnels, encore maintenant, ces trois matzahs, ces trois pains sont mangés au moment de la Pâque. Et ils disent que le premier pain, c'est les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres. Le deuxième, c'est les Lévites. Et le troisième, c'est le peuple qui porte finalement les prêtres et puis les sacrificateurs. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on prendrait le pain des Lévites, qui est une des tribus d'Israël, hein, qui n'avait pas de terre en elle-même et qui était un peuple de prêtres? Pourquoi est-ce qu'on prendrait le peuple lévite et qu'on couperait en deux et qu'on garderait une grosse partie qu'on cacherait et qu'on ressortirait à la fin du repas? Est-ce que ça a un sens? Mais actuellement, quand vous essayez de comprendre Pâques chez les Juifs, c'est ça qui vous donne comme interprétation. Mais dans le christianisme, c'est extraordinaire. Et on dit que la ficomène, c'est quelque chose probablement qui était instauré par les chrétiens du premier siècle. Ça a été perpétué un peu au repas de Pâques. On ne sait pas trop pourquoi, mais nous, on sait pourquoi. Le premier, c'est le Père. Le deuxième, c'est le Fils. Et le troisième, c'est le Saint-Esprit. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaire pour nous. Et que qu'on prenne la deuxième matza, on appelle ça une matza, et qu'on la casse, ça représente quelque chose pour nous. Et lorsque le corps du Christ a été rompu, lorsque Christ casse cette afikomen, il meurt à ce moment-là pour nous. Ensuite, il est caché dans un drap blanc comme s'il est enseveli, et à la fin du repas, on va le chercher parce qu'il est ressuscité. Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Et je pense que dans notre souci de communiquer avec les autres, moi je sais que le prochain repas de Pâques, si j'ai l'occasion de le faire avec une famille juive, je vais leur sortir ça au repas. C'est sûr et certain. Alors, je ne sais pas, après, il faudrait le faire avec beaucoup de délicatesse. Pas arriver avec ses gros sabots en disant c'est moi qui ai raison, attendez, j'ai plein de choses à vous apprendre, c'est pas du tout ça. Hein. Mais je crois que ça peut être intéressant. Et quand vous avez développé des relations avec les autres, sans les. Où il y a la confiance est instaurée, à ce moment-là, vous pouvez vraiment parler. C'est valable aussi quand vous parlez avec des gens d'autrefois, s'ils sentent qu'ils ne se sentent pas agressés par vous. Il y a vraiment moyen de vraiment partager ensemble les choses. Donc ça, c'était la ficomène. Alors, j'avais dit aussi que c'est Rebecca qui m'a interpellé là-dessus. Elle me dit, papa, t'as dit quelque chose qui était faux la semaine dernière. Alors, j'ai dit, oui, de quoi il s'agissait? T'as dit que le Christ avait vécu 3 ans sur Terre. Okay. Vous vous rappelez de ça? Donc, il y en a plein qui l'ont... Ma fille me l'a signalé. En fait, Jésus a bien vécu 33 ans. Mais son ministère a commencé... La naissance, on sait ce qui s'est passé, et puis il y a eu cette étape à l'âge de 12 ans, et puis où il est dans le temple, il discute avec les rabbins, et après on ne sait plus rien. Mais il réapparaît à 30 ans, et il va passer 3 ans sur Terre. 3 ans où les gens, il va être la cible de tout le monde, on va le regarder. Et finalement, à aucun moment on dit qu'il a péché en quelque façon que ce soit. À aucun moment, même jusqu'au moment de la croix, qu'ai-je fait pour mériter cela? Personne n'est capable de dire ce qu'il a fait. De mal, en tout cas. Si, il s'est fait passer pour le roi d'Israël, c'était ça sa faute, et puis pour les Romains, du coup, il faisait peut-être qu'il aurait potentiellement pu faire de l'ombrage à l'empereur. Et puis on l'a crucifié pour ça. Mais il n'a commis aucun péché. D'ailleurs, que lorsque vous discutez avec les musulmans, ils le savent très bien. Jésus est le seul qui n'a jamais commis péché. Mahomet a commis des péchés, mais Jésus jamais. Et c'est lui qui vient à la fin des temps. Donc c'est quelque chose d'important, ça ils le savent. C'est écrit dans leurs livres aussi. Et donc on peut parler de cela. J'ai trouvé des choses très intéressantes, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui sur le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a des... Mais il y a des allusions qui sont faites aux coupes, il y a des allusions qui sont faites au pain et au pain, à la scène, au corps du Christ. C'est vraiment très très intéressant. Et je vais simplement me référer sur quelques petites choses que je vous ai promis que j'allais vous parler un petit peu des coupes. En tout cas, qu'est-ce qui se passe au moment du repas? Donc, je vous ai parlé, il y a trois matzot, hein, des matzah singulier, matzot pluriel, les trois pains dont on a parlé. Ensuite, il y a les karpas, c'est les herbes vertes, le persil et les radis. Ensuite, il y a un petit vase d'eau salée. Je ne vous donnerai pas les termes en hébreu. Ensuite, il y a le maror, c'est les herbes amères. Ensuite, il y a la rosette, qui est un mélange fait avec des pommes, des noix et de la cannelle, des yéons du vin. Ensuite, il y a le zeroa, qui est un os d'agneau avec de la viande adhérente. Et puis, enfin, le betsa, qui est l'œuf. Et je vais vous donner simplement les interprétations de ça, et vous allez un petit peu m'aider. Donc on a parlé de la matza, et puis ensuite on parle de l'herbe verte, qui représente quoi, l'herbe verte? On parle d'un pays où il y a de l'herbe verte, où le lait et le miel, ça parle de Canaan, voilà. Le vase d'eau salée, ça représente quoi? La mer rouge. Tout à fait. Les herbes amères, à votre avis?
Avant qu'ils partent, ils mangeaient l'agneau avec les herbes amères.
Ils mangeaient, ça c'était le repas, mais pourquoi on mangeait des herbes amères? Alors, finalement, pourquoi on mangerait des herbes amères? Comment? Voilà, l'Égypte, l'amertume de l'esclavage de l'Égypte. Ensuite, il y a la recette qui représente le ciment et le mortier dont les Israélites faisait des briques pour le compte du pharaon. Donc il se rappelle de ça. Et il trempe d'ailleurs les choses. Lorsque, vous savez, au moment de la Pâque, enfin, où Jésus instaure la scène, où il dira « Ceci est mon corps et ceci est mon sang », on va le rappeler. Eh bien, il y a Judas qui va tremper son pain dans quelque chose. Et ça peut être la recette, ça peut être autre chose aussi, ça peut être du vin. En tout cas, il va tremper quelque chose. Et ça, c'est aussi quelque chose de symbolique. Et enfin, l'œuf dur est un symbole de deuil, car même à l'occasion des plus grandes réjouissances, il ne faut pas oublier que Jérusalem a été détruite et dévastée. C'est ça que symbolise finalement ce repas. Et chez les Juifs, traditionnellement, quand ils fêtaient Pâques, au moment de Pâques, au moment du mois de Nissan, eh bien, on disait à la fin, l'an prochain, ce sera Jérusalem. Et c'est d'où vient l'expression, l'an prochain, Jérusalem. Maintenant, on sait depuis un certain temps que les choses se font maintenant là-bas, alors qu'avant ça se faisait en galoute, c'est-à-dire dans les pays lorsqu'Israël n'était plus un État, mais une espèce de no man's land à l'époque. Voilà, alors, je vous avais dit, et avant de passer au repas du Seigneur, je vais vous parler un petit peu des coupes. Alors, si c'est pas clair, parce que j'ai lu plein d'articles différents, et enfin, on concerne la deuxième, première, deuxième, troisième, quatrième coupe, il y a même parfois une cinquième coupe, on n'est pas sûr. Et je me dis, mais les auteurs, quand je les lis, je sens qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, mais effectivement, quoi, il y a des choses un petit peu qui se contredisent pas, mais on ne sait pas trop de quelle coupe il s'agit. En tout cas, pour les Juifs actuels, lorsqu'ils étudient la période du Second Temple, ils vont dans les évangiles. Parce que c'est là que se trouvent finalement des records historiques de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est des livres importants que les Juifs étudient actuellement, et donc ils sont un petit peu chamboulés par cela. Et notamment dans l'évangile de Luc, où je vous ai dit la dernière fois que le Christ prend d'abord une coupe, et il la boit, ensuite il prendra du pain, et ensuite il reprendra une coupe. On se dit, mais... qu'est-ce que c'est? C'est deux fois. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie ou la Sainte Cène? On prend d'abord le pain et le vin. Eh bien, là, dans Luc, on prend le vin, on prend le pain et on reprend du vin. Et en fait, il s'agissait d'une autre coupe. Et probablement que la coupe que Jésus a prise, c'était ce qu'on appelle la coupe d'Élie et la coupe messianique. Celle, normalement, qu'on ne devait jamais boire. On la laisse sur le côté, celle-là, et on ne la boit pas tant que le Messie n'est pas là. Et Jésus se permet, évidemment, puisque c'est lui le Messie, de prendre cette coupe et de la partager avec les autres. Voilà, le royaume de Dieu est arrivé, le Messie est là. Alors, dans le texte que nous avions lu, on ne va pas le relire aujourd'hui en ce qui concerne l'Exode, chapitre 12, il est mentionné pourquoi ces coupes sont données. C'est simplement par des phrases que dit Dieu. Pour la première coupe, c'est la coupe du prophète Élie, c'est la coupe messianique, et c'est aussi la coupe de sanctification. C'est ce qu'on appelle aussi le kiddush. Et c'est dans l'Exode où Dieu dit « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens ». Donc ça, quand ils boivent cette coupe-là, c'est la première, et ils se rappellent ce verset « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens ». Et quelque part, nous, quand on pense aussi au sang de Jésus qui nous libère, la vérité vous rendra libre, nous dit Paul, et c'est quelque chose de très très important, de se dire que nous aussi, on entre dans une période de vérité, on entre dans une période de liberté, et à chaque fois qu'on se prend ce repas, on dit merci pour la liberté que tu me donnes. Ensuite, c'est la deuxième coupe, c'est la coupe de l'instruction, ou coupe des plaies, ou aussi coupe de la délivrance. Alors, vous voyez, enfin, j'ai pris quelques commentateurs qui parlaient de différentes coupes, et ça, c'est un verset suivant qui dit « Je vous délivrerai de leur servitude ». Je vous délivrerai de leur servitude. Donc, première coupe, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et la deuxième, je vous délivrerai de leur servitude. Et vous savez que Moïse, c'est quelqu'un de très très important dans le judaïsme. Et d'ailleurs, ils imaginent que le Messie qui doit venir, ça sera quelqu'un comme Moïse. Et Moïse dit, il sera plus grand que moi. Mais ils savent que c'est quelqu'un de la trempe de Moïse. Nous, on sait, en tout cas dans notre foi, que c'est le Fils de Dieu. C'est complètement fou de croire ça. Moi, parfois, je me dis, mais à quoi je crois? Je crois que Dieu, de l'univers, a tout créé. Et puis après, depuis que je suis petit, c'est vrai qu'on m'a appris que Jésus, que Dieu s'est manifesté sur la terre en petit bébé, et qu'il a grandi, et qu'il s'est offert pour nous sur la croix. Ça paraît fou. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la tradition judéo-chrétienne, ça paraît délirant. Mais c'est encore plus délirant de croire qu'on vient du hasard. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est la grosse question philosophique et celle à laquelle je reviens tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et Jésus, quelque part, plus je m'enfonce dans ma foi et plus ça a du sens. Et je vous invite aussi à creuser ça. Enfin, ça m'a vraiment fait du bien de creuser un petit peu cette fête de Pâques à ce propos. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience que c'est quand même fou. Et puis le repas que nous allons prendre, c'est du cannibalisme à la limite. On mange le corps de Jésus, on boit son sang. C'est quand même fou quand on y pense. Bon, ça nous paraît banal parce qu'on le fait souvent. Mais pensez à quelqu'un qui ne connaît rien. Moi, j'ai rencontré des patients pas plus tard qu'hier. On parlait de vendredi 13. Alors je dis, vous savez pourquoi c'est vendredi 13? Alors j'en ai profité un peu. Je dis, non, c'est pas du tout à quoi ça correspond. Alors je leur dis, écoutez, vendredi 13, Jésus était à table avec ses disciples. Et puis il célébrait, alors j'emploie les mots que les gens connaissent, hein, il célébrait la Sainte-Seine ou l'Eucharistie. Vous avez déjà entendu parler de ça? Absolument pas. Complètement inculte. Alors bon, alors je leur dis, mais vous avez déjà entendu parler de Jésus quand même? Alors, vaguement, mais c'est quand même, c'était étonnant cette espèce d'inculture là, et c'est quand même, il y a quand même pas mal de gens. Hier on distribuait le Nouveau Testament, et puis j'ai dit aux gens, écoutez, si vous voulez comprendre Voltaire, Victor Hugo, Montesquieu, Blaise Pascal, il faut avoir lu le Nouveau Testament. Alors lisez au moins Luc et les Actes des Apôtres, et vous serez bien supérieur à la majorité des Français, qui vous aurez au moins une culture de d'où vient tout ça. Revenons à la troisième coupe. Là, la troisième coupe, c'est la coupe de bénédiction ou coupe du salut ou de la rédemption. Et là, c'est Dieu qui dit, donc je répète les phrases. Première coupe, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Deuxième coupe, je vous délivrerai de leur servitude. Troisième coupe, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. La quatrième coupe est la coupe des louanges, ou la coupe d'adoption, ou la coupe de restauration. Et là, c'est « Je vous prendrai pour mon peuple ». Je vous prendrai pour mon peuple. Alors, dans le Nouveau Testament, la première coupe, ce serait cette coupe dont nous avons parlé,
où Jésus prend la coupe et dit « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et puis on saute à la deuxième coupe, on n'en parle pas, et on parle de la troisième coupe qui est la coupe de bénédiction, en 1 Corinthiens chapitre 16, la coupe de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance pour la rémission des péchés, ça c'est Matthieu qui nous le dit dans Matthieu 26. Et en fait, la dernière coupe, c'est la coupe des louanges. Hein, je vous l'ai dit, je vous prendrai pour mon peuple, et ça serait l'avènement du royaume. Donc Jésus, lorsqu'il célèbre ce repas, va dire qui est la phicomène, c'est lui. Va dire que le nouvel Élie est venu. Qui était Élie dans le Nouveau Testament? Jean-Baptiste, hein, celui qui a annoncé que Jésus était le Messie et qui va avoir une parole prophétique. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, parce que vous savez qu'après il va être incarcéré. Et il va demander à Jésus, mais es-tu bien celui qui devait venir? Donc même lui aura des doutes. Marie, pareil, elle prend Jésus, il va grandir dans son ventre. Il y a des moments où elle va être déconcertée par son propre fils. Quand on dira qui est ma mère et mes frères? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui me suivent. Donc il y avait quelque chose d'étonnant dans ce fils qu'elle a porté en elle. Et elle savait, elle, et ça c'est notre foi qui le dit, qu'elle a été conçue comme ça, sans l'intervention de Joseph. C'est ce verset qui dit que Marie ne connut pas Joseph, et connaître, c'est au sens le mari qui connaît sa femme, la femme qui connaît son mari, ça fait allusion à la sexualité dans le couple. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Jésus. Donc Marie savait ça, et malgré cela, bon, il y a le doute qui nous assaille tout le temps. Mais ça fait partie de la foi, le doute. C'est tous ces moments où, est-ce que tout ça c'est bien vrai? Est-ce que tout ça c'est bien vrai?
Alors, je vais vous poser, simplement vous demander, parce qu'on ne va pas s'enfoncer dans la pratique du repas, etc. On va célébrer le pain et le vin. Alors, ce n'est pas la peine de nous rappeler de tout ça, mais c'est utile pour nous de savoir dans quel contexte tout ça s'est passé. Pour Jésus, c'était une évidence. Pour ses apôtres, c'était une évidence. Du contexte de l'époque. Et nous, c'est important de savoir dans quel contexte tout ça s'est passé, dans quelle culture tout ça s'est passé, pour mieux comprendre. Hein, et je vous rappelle cette phrase. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché, et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Il y a quelque chose de formidable quand vous savez ça. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, ou la Première Alliance, essayez d'y discerner à quel moment il parle du Messie. À quel moment il parle du Messie, vous allez, ça va être quelque chose de formidable. Lorsque vous allez regarder le Seigneur des Anneaux, maintenant, vous allez être en quête des indices qui sont très 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 chrétiens jusqu'au repas du Seigneur avec le symbole du pain et le symbole du vin. Mais là, ça, je vous le laisserai découvrir dans cette lecture. Je vais demander à Pierre s'il veut bien venir avec moi. Alors, vous savez bien entendu que nous ne sommes que des, Pierre et moi, des instruments entre les mains du Seigneur, et que c'est le Seigneur lui-même qui, par sa présence, nous invite à ce repas. Il nous invite à nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est bien de le faire, finalement, concrètement, avec ce pain et avec ce vin, afin que nous puissions nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Seigneur Jésus, toi qui nous as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps, toi qui nous as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur, nous voulons reconnaître ta présence. Et nous voulons te remercier pour cet immense sacrifice que tu as que tu as fait pour nous, il y a de ça 20 siècles. Nous te remercions aussi de t'être inscrit dans cette culture qui nous aide à comprendre ton sacrifice. Seigneur, que nous puissions discerner dans ce pain ton corps brisé pour nous. Et que chacun de nous puisse s'examiner lui-même face à ce repas, qu'on puisse le prendre vraiment en tiernant le corps du Christ.